Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Bonjour Jean Prévost.
Bonjour Anne-Françoise.
Nous nous retrouvons aujourd'hui, toujours avec le même plaisir, dans le studio de Canal Academy pour la deuxième émission de notre série « Le dictionnaire, hier et toujours ». 1718-1740. 1718, deuxième édition. 1740, troisième édition du dictionnaire de l'Académie. 1718, le roi Louis XIV est mort depuis 3 ans. La fin du règne a été longue, austère et difficile. Le temps de la folle régence commence alors. Le petit roi, né en 1710, n'a que 5 ans à la mort de son arrière-grand-père. C'est à lui que s'adressent les académiciens dans leur épître. « Ces grands hommes, vit le roi, le gouverneur du roi, Fleury, son précepteur, à qui votre éducation a été confiée, ne vous laisseront pas oublier la protection particulière que vous devez aux lettres. Ce sont elles, sire, qui cultivent l'esprit, qui éclairent la raison, qui forment les mœurs, et c'est par leur secours que se perfectionnent les arts et les sciences. Après que le grand prince, Philippe d'Orléans, le régent, qui pendant votre minorité gouverne avec une capacité supérieure et avec une application continuelle, vous aura remis entre les mains un royaume florissant, vous ne songerez qu'à le rendre encore plus heureux. Nous sommes, avec un très profond respect et une fidélité inviolable, sire de votre majesté, les très humbles, très obéissants et très fidèles sujets et serviteurs. » 1740, Louis est encore le bien-aimé, mais la France a faim. Des troubles éclatent et, à l'extérieur, la guerre menace. Le cardinal de Fleury, ancien précepteur très aimé et très écouté du roi, est toujours aux commandes et la faveur de Madame de Vintimille est plus grande que jamais. C'est dans ce contexte que paraît la troisième édition du dictionnaire de l'Académie. 1694-1718, 1718-1740, c'est à peu près le même écart. 24 ans entre la première et la deuxième, 22 ans entre la deuxième et la troisième, qui séparent ces trois éditions. Dites-nous d'abord, cher Jean Prévost, pourquoi vous avez choisi de rapprocher l'édition de 1718 et celle de 1740 et d'en parler dans un même temps?
Alors, ce qu'il faut peut-être souligner, effectivement, et vous l'avez fort bien dit, c'est qu'il y a en un siècle 4 éditions. Puisqu'en réalité, il y a la deuxième, donc 1718, la troisième, 1740, puis il y aura la quatrième et la cinquième en 1798. Donc c'est très rapproché, et ça suit l'évolution de la langue, et ça montre aussi le succès du dictionnaire de l'Académie.
On ne peut plus leur reprocher leur lenteur.
Non, là c'est fini. Vraiment, ce 18e siècle aura été très productif. Et il se trouve que si j'ai choisi de mettre dans le même lot les deux premières, même si elles sont distinctes, on va le voir avec une évolution, c'est qu'à partir de la troisième, c'est vraiment ce qu'on va appeler le dictionnaire de l'Académie, parfois des philosophes. Donc il y aura vraiment, non pas une rupture, mais il y aura une forte évolution. Alors que la deuxième et la troisième se marquent par une évolution plutôt du côté de la forme, et notamment de l'orthographe qui va évoluer.
Nous avons bien compris la raison d'être de ce rapprochement. Les académiciens s'étaient remis au travail, venez de le dire, avec un nouvel élan, et la révision de la première édition avait commencé dès janvier 1695.
C'est ça.
Avec notamment Charpentier, Perrault,
oui, voilà,
avec Thomas Corneille.
Oui. Alors, deux bureaux avaient été mis en œuvre. Le second s'occupant des doutes sur la langue. C'était notamment effectivement Perrault, Corneille et Dangeau, ainsi que Charpentier, qui faisaient partie de ce deuxième bureau, mais enfin c'est bien ça, ce second bureau. Et de l'autre côté, ceux qui préféraient travailler donc à la remise en forme du dictionnaire et aux questions lexicographiques, c'était Fontenelle, Centenaire s'il en est, Dacier et Régnier des Marais. Ce Régnier des Marais aura un rôle évidemment essentiel.
Comment vont-ils travailler ?
Alors, ils vont travailler d'abord en tenant compte
des critiques
qui sont faites. Et elles sont nombreuses. Et on peut bien dire que l'Académie conserve en quelque sorte un cap, mais elle tient compte des critiques. Et en ce sens, les critiques n'ont pas manqué. Dès 1691 était parue l'apothéose. C'était une attaque contre le dictionnaire qui mettait l'accent sur le temps qu'il avait fallu à la compagnie pour rédiger l'ouvrage avec toutes les railleries qui s'y raccrochaient.
Suscité, oui.
Voilà. Ensuite, on y avait évoqué le dictionnaire français qui utilisait finalement des mots un peu vieillots. Le mot filleul qui était dans quelques articles présentés comme fillot. Et alors, des critiques malvenues d'ailleurs, apparemment ces fillots et filloles ont été tenus sur les fonts baptismaux par les anciens académiciens qui sont déjà décédés. Mais il est à croire que ceux qui viendront ne voudront que des filloles LS et des filloles LES. Mmh. En vérité, à l'article filleul, c'est bien deux L-E-U-L. Et donc, c'est une critique d'un mot qui a été apparu oui. dans un autre article où on retrouvait filloles deux L-O-L. Et alors, il y a eu aussi la réponse, parce que les académiciens n'avaient pas le droit de répondre. Ça faisait partie de leur règle morale. Ils ne répondaient pas aux critiques. Mmh. Mais évidemment, d'autres.
Comme à la
pouvaient...
cour anglaise.
Voilà.
Comme à la cour du roi d'Angleterre.
Avec une grande courtoisie. Mmh. D'autres s'en sont chargés. C'était notamment Malemant de Messanges, qui était professeur de philosophie au collège du Plessis, qui s'en est chargé. Réponse à une critique satirique intitulée « L'apothéose du dictionnaire de l'Académie française ». D'ailleurs, il ne répond pas vraiment bien parce qu'il n'évoque que les attaques concernant l'épître et la préface. Alors, il y a eu surtout le dictionnaire des Halles. Et en 1696, qui critiquait la nomenclature et surtout la présence d'un nombre très élevé d'expressions triviales, communes, voire vulgaires. Alors, il y a enfin eu, en 1697, l'enterrement du dictionnaire de l'Académie, qui surenchérit en affirmant à propos des mots « compte », C-O-M-P-T-E, « marché », « coûter », C-O-U-S-T-E-R et « peser », que pour telle façon de parler si triviale et publique, il ne faut seulement qu'aller à des halles et des boutiques. Alors on a cru que c'était Furtière, mais Furtière était mort il y a bien longtemps, ne pouvait pas avoir connaissance de l'ouvrage et de ses mots tels qu'ils étaient traités. Donc, bon, on se rend bien compte qu'il était facile de critiquer, mais l'art était difficile.
Et Fénelon, sa lettre à l'Académie.
Voilà, viens ici. Alors là, je me sers, il faut rendre à César ce qui est à César, des travaux qui ont été faits sous la houlette de Bernard Quémada et Eugénia Rouchet, qui travaillait dans cette équipe, où j'ai moi-même travaillé pour la 8e édition, avait fait un travail considérable sur la 2e édition, et je reprends une partie, bien sûr, de ces travaux. Alors, peut-être juste un mot avant Fénelon, parce que Fénelon, effectivement, bienvenue, c'est lui qui va mettre en avant combien la langue française est, en définitive, beaucoup plus mobile qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'il va reprendre, en fait, à quelques détails près, les idées qui avaient déjà été mises en avant par Castel de Saint-Pierre, qui avait, dès 1712, offert un rapport à l'Académie, qui lui avait demandé, où il expliquait combien, finalement, la véritable signification des mots, la beauté du style, la délicatesse des pensées, la noblesse des sentiments, la bienséance, la vraisemblance des actions, tout ce qui, dans le fond, fait la beauté aussi et la qualité d'un dictionnaire, devait être mis en avant, soit pour être imité, soit pour être évité. C'est presque le serpent d'Audemer qui revient, c'est l'idée des citations. Va-t-on ou ne va-t-on pas mettre de citations dans l'Académie ? Merveilleusement, l'Académie s'est toujours arrangée pour ne pas en mettre ou quasiment pas. Nous le verrons tout à l'heure. Mais il ne reste pas moins qu'au sein de la compagnie, c'était un débat permanent.
Oui. Enfin, finalement, l'option choisi pour la première édition, demeure.
Oui, voilà. C'est-à-dire que ce qui s'est produit dans cette édition, c'est que ça et là, quelques phrases ont été empruntées à de bons auteurs, considérés comme tels, comme Malherbe par exemple, sans pour autant être cités. Donc si vous voulez, c'est des citations déguisées en exemples forgés, si on peut dire. Alors, Fénelon, lui, met bien en avant que la langue bouge, et il dit, il affirme, qu'une langue vivante est sujette à de continuels changements, et là, il ne fait que traduire le sentiment d'une prise de conscience générale, dont la préface de l'édition va se faire l'écho.
Oui.
Alors, édition 1718, comme le déclare Eugénia Rouchet, continuité et changement.
Oui.
Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Hein. Et il est clair que...
Qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui change ?
Voilà, ce qui change, ce à quoi il a été renoncé, c'est le classement par racine. Qui avait, on l'avait vu, représenté une innovation.
Oui, mais qui n'avait rencontré aucun succès.
Aucun succès.
Le public était déjà habitué à l'ordre alphabétique.
Voilà, alors c'est vrai.
Et en fait, ce classement venait ou trop tôt ou trop tard.
Oui, c'est exactement ça. Il venait trop tard, parce que s'il avait été le classement de la première, du tout premier dictionnaire monolingue, peut-être il se serait imposé. Mm-hmm. Et il venait trop tard, parce que mm-hmm. deux dictionnaires, Richelet et Furtier, avaient déjà donné la mode du classement alphabétique. Puis alors, il faut l'avouer, la dernière fois, j'ai mis en relief les avantages linguistiques de ce classement morphologique, en quelque sorte, en partant des racines. C'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients. Quand il faut chercher « absoudre », au deuxième tome, derrière Soudre, bon, on n'est pas vraiment dans une facilité. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que dans ce dictionnaire, ce qui va changer de manière presque imperceptible, c'est en gros quand même 135 pages de texte supplémentaires. Quand je oui. dis imperceptible, c'est pas si imperceptible que ça.
Oui,
donc
oui.
une nomenclature enrichie. On va par exemple constater, ne serait-ce que pour la lettre I, l'ajout de 82 mots. Isme, par exemple, imposte, terme d'architecture, imputation, terme de finance.
Donc nous parlons bien de la deuxième édition, n'est-ce pas ?
Nous parlons bien de la deuxième édition. J'ai tendance à dire la première de nos deux.
C'est bien la deuxième.
Mais c'est bien la deuxième édition. Et donc, on a là quand même des petits changements. Ce qui fait que quand on dira par la suite, ce que j'ai aussi dit parfois imprudemment, que la deuxième édition n'est que la première édition remise dans l'ordre alphabétique, elle n'est pas une révolution en soi par rapport à la première édition. Mais elle est quand même un aménagement, une prise en compte des quelques critiques qui ont été faites, et aussi parce que l'ordre alphabétique l'impose, une réflexion plus solide sur
l'orthographe.
Que là, il faut vraiment...
Il faut que les mots soient à leur juste place.
Voilà. Par exemple, on commence à régulariser les pluriels qui étaient ANS ou ENS, on enlevait le T en ANTS ou ENTS. De même que, quand on disait « ils ont été reçus par le roi », ça s'écrivait C-E-U, le E-U étant le digramme de lettres pour dire U, comme on l'a dans d'ailleurs d'autres mots, il a U, hein, ça s'écrit E-U. Mmh. Eh bien, là, on abandonne ce digramme et on le remplace presque partout par la lettre U. Alors ça, on le doit notamment à Régnier des Marais.
Oui.
Hein, parce que Régnier des Marais voilà, est quand même l'homme fort. C'est lui qui aurait dû faire la première préface, on avait vu,
oui.
de la première édition. Et on a vu que Charpentier, profitant de l'absence de Régnier des Marais,
Régnier des Marais était en province.
Voilà.
Et fort élégamment.
Voilà. Il s'est vu au retour avec une préface qui n'était pas la sienne. Elles sont anonymes, alors évidemment, bon, on ne peut pas discuter. Mais là, par contre, la deuxième édition, tout le monde.
Alors, justement, j'en parle en des préfaces. La préface de la deuxième, la préface de la troisième, elles sont très explicites, elles nous éclairent vraiment sur ce qu'ils veulent, les académiciens.
Je suis vraiment très heureux que vous évoquiez les préfaces, parce qu'on a tendance à expliquer le dictionnaire sans penser que les lexicographes...
Que tout est dit dans les préfaces.
Voilà, que beaucoup de choses sont dites. Alors, il y a même autre chose, c'est l'épître au roi.
Oui.
Parce qu'à l'époque, il y avait toujours avant la préface...
Tout à l'heure.
Voilà. Et alors, dans l'épître au roi, voilà comment ça commence. « Votre auguste bisaïeul, Louis le Grand, Louis XIV, a bien voulu joindre le titre de protecteur de l'Académie française à ceux de conquérant et de pacificateur. »
J'avoue que je me délecte du style de ces préfaces.
Donc on voit qu'il y a là des références au passé et qu'on rappelle au jeune roi, parce qu'on est en 1718, Louis XV n'est pas encore dans sa gloire et même dans son pouvoir.
Et alors, 18, il a 8 ans.
Voilà, et donc il y a le futur qui est de mise. Il fera... Il s'agit d'un « il » qui concerne le roi, le futur roi de 8 ans. Il fera sentir toutes les beautés de notre langue en marquant la juste signification des mots qui la composent. Un prince n'a de véritable gloire qu'autant qu'à la valeur héroïque qui attire l'admiration des hommes. Il sait joindre la justice et la bonté qui gagnent si sûrement leur amour. Voilà, sire, la gloire que vous aimerez et que vous serez jaloux d'obtenir. Nous en avons pour garant vos heureuses inclinations et les conseils de ces grands hommes à qui votre éducation a été confiée.
Voilà.
Ils nous diront qu'un roi est responsable à ses peuples, c'est presque politique, de tous les moments de sa vie, qu'il n'est leur maître que pour être leur père, qu'il ne doit faire la guerre que pour se défendre, et que dans le sein même de la victoire, il ne doit aspirer qu'à leur procurer la paix. Donc, là, les lettres font aussi de la politique. Et
c'est
faux de dire qu'un dictionnaire
est
quand même assez pacifiste.
C'est tout un monde, et nous sommes loin encore de 89.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je dérape, parce qu'une réflexion me vient à partir de 1789. La compagnie était sans doute beaucoup plus démocratique qu'on l'imaginait, démocratique avant l'heure d'une certaine manière. C'est un parlement des mots, puisqu'ils sont 40 et discutent des mots.
Ils travaillent ensemble.
Voilà, c'est une équipe. Hein,
ils en sont fiers.
Une sorte de démocratie.
Ils savent que c'est leur force.
Voilà, c'est leur force. Alors, dans la préface, on rappelle les étrangers qui aiment notre langue et qui se font un honneur de la savoir, verront qu'on n'a rien négligé de
tout ce qui peut venir à terre. Et là, vous nous parlez de la préface de la deuxième.
Toujours la deuxième, voilà. On évoque évidemment la difficulté de définir des mots simples. Et par exemple, le mot « bon ». « Bon » est un des mots les plus communs et les plus courts de notre langue. Alors évidemment, ça n'intéresse pas le lecteur du 18e, mais ça intéresse vraiment le sémanticien, le linguiste. Et il nous explique, c'est un éloge quand il est placé avec de certains mots comme « bonhomme », »,« bon mari », »,« bon peintre ». Un dénigrement quand il est joint avec d'autres, et quelquefois avec les mêmes, comme « bon homme »,« bon idiot », »,« bon badaud ». C'est un terme de mépris, outré et d'indignation, comme « bon coquin »,« bon insolent », »,« bon scélérat ». Vous voyez, donc on donne là vraiment les définitions. Et puis alors, il y a un certain nombre de mots nouveaux qui sont évoqués, « falbala »,« fichu », »,« ratafia », bon, ça manque pas de charme, et puis l'orthographe. Un grand débat sur l'orthographe, évoquant toujours le fait qu'on pense à l'étymologie, mais on y est moins attaché. D'ailleurs, l'étymologie rassurerait nos écoliers d'aujourd'hui, parce que ça s'écrivait E-T-I-M-O-L-O-G-I-E. Là, on a enlevé le H, mais il n'y avait pas d'Y. Et il évoque l'orthographe, donc, mais pas trop. Ça sera surtout, bien sûr, la troisième édition. Et il y a les trois dernières lignes qui me semblent merveilleuses pour montrer quand même une forme d'ouverture.
On vous écoute.
Il y a des choses si frivoles dans certaines parties de la grammaire qu'un grammairien sage doit se faire un mérite de les ignorer. C'est bien la grammaire de l'usage. Un grevisse avant l'âge. L'usage, mais pas aller jusqu'à des finesses qui seraient presque délétères pour la langue. Ouais.
Alors, dans la troisième, nous y venons, les options générales sont maintenues, mais un progrès fondamental est marqué dans le domaine de l'orthographe cette fois.
Alors, oui.
Parlons de cela.
Alors, il faut déjà dire que entre des gens comme Montesquieu, le premier philosophe des quatre grands, Crébillon, Fontenelle y est toujours. Et puis intervient quelqu'un.
Quel âge a Fontenelle ?
Il ne doit pas être moins des 100 ans.
Oui.
Voltaire l'a connu, donc c'est une question délicate. Je ne sais pas trop quel âge il a en 1740. Nos auditeurs très cultivés vont nous le dire.
Oui, absolument.
Alors, l'abbé d'Olivet, qui est traducteur et grammairien, qui va devenir ensuite secrétaire perpétuel.
Et la préface est de lui.
Oui. Voilà, d'Olivet va jouer un rôle essentiel. Il est élu...
Préface de la troisième.
De la troisième, voilà. Il est élu à l'Académie le 25 novembre 1723. Il avait été le disciple, l'élève de Boileau. Donc, a toujours eu aussi un rapport. Et d'Alembert, d'ailleurs, qui lui a succédé en tant que fauteuil, rappelait qu'à 16 heures, il se pensait un peu poète aussi. Peut-être pas très bon poète, dit d'Alembert, mais de la poésie à l'observation attentive de la langue et de la prononciation, et donc de l'orthographe en fonction de cette prononciation, il n'y a finalement qu'un pas. Alors, c'est vrai que c'est toujours la langue commune qui est mise en avant, et que pendant ce temps-là, d'autres dictionnaires dont on parlera tout à l'heure, continue de vivre le dictionnaire Furtière à travers le dictionnaire de Trévoux en offrant des citations. Il y a de nouveau, effectivement, des attaques venant de l'intérieur. Des attaques, c'est pas des attaques. Des arguments en faveur...
Le parti est difficile à arrêter.
Voilà.
Entre non-citation ou citation.
Voilà. Et une fois de plus, on ne cède pas. Il y a comme une sorte d'âme de l'académie au-delà des académiciens qui fait que le dictionnaire, on a presque envie de le personnaliser, le personnifier. Le dictionnaire dit non, je ne veux pas de citation. Bon.
Finalement, leurs exemples sont des citations, puisque ce sont de grands écrivains qui les écrivent.
Bien sûr, c'est des citations anonymes.
Voilà.
Mais sans la volonté d'effet de style. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait toute la grandeur, c'est l'usage, le bon usage. Alors, il se trouve qu'on va enlever, là, une grande révolution, les S muets, qui étaient là dans l'ancienne orthographe pour comprendre que escole, on ne prononçait pas escole, on disait école. Oui. Le S était là pour faire comprendre que c'était un E, et non pas un E.
Donc, oui, puis alors scola.
Voilà.
Ça aussi.
Voilà, il y avait aussi. Et donc, on va demander à Coignard, l'imprimeur, d'ajouter des accents aigus. Ouais. Le problème, c'est qu'on sera en retard parce qu'il n'a pas pris la précaution d'en fondre suffisamment en tant que caractère d'imprimerie. Et il en faut beaucoup, évidemment.
Bien sûr.
Donc, si
bien que tous ne seront pas corrigés.
Oui, ça et là. Alors, c'est Liselotte Biderman-Pask qui avait bien étudié cette affaire et montré que la moitié de la première page, souvent, est sans faute d'accent et la fin de la page avec quelques fautes, parce qu'il manquait d'accent.
Pour cause de rupture de stock.
Pour cause de rupture de stock, c'est exactement
ça. Alors, les accents aigus et graves, disparition des consonnes muettes, de certaines consonnes muettes.
Oui, et puis en même temps, on commence à aider le lecteur dans la... Parce que l'Académie, j'en ai pas souvent parlé, même presque jamais, je crois, l'Académie a toujours souhaité ne pas donner la prononciation des mots. Elle aurait pu le faire, hein, non pas oui. En phonétique, ça n'existait pas, mais par des...
Alors, sauf lorsque...
Ça lui paraît vraiment trop difficile à saisir pour le public.
Entre la prononciation...
Et alors là, ça peut nous étonner, parce qu'on l'avait déjà dans la préface de la première édition du dictionnaire de l'Académie, on dit « second », même si ça s'écrit avec un « c », mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on disait « Claude » et pas « Claude », le prénom, une reine Claude, et qu'on disait « secret » pour « secret ». Alors là, elle n'hésite pas, c'est curieux, pour ce que nous prononçons « gangrène », elle ajoute « on prononce gangrène ». On ne disait pas « gangrène ». Pour « évider », « E-V-U-I-D-E-R », on prononce « évider hein ». De temps en temps, quand elle a laissé une lettre qui est étymologique ou qui en tout cas n'a pas sa valeur de prononciation, elle le signale. Alors d'Olivet est vraiment celui qui va mettre cela en avant et qui va faire... prendre au dictionnaire de l'Académie un tour moderne. Vraiment, quand on évoque l'Académie en pensant en termes de conservation de la langue, non, on sait vraiment suivre l'usage. Et là, d'Olivier
le
fait
magnifiquement. On peut le citer, l'on ne doit point en matière de langue prévenir le public, mais il convient de le suivre en se soumettant non pas à l'usage qui commence, mais à l'usage généralement reçu.
C'est une formule magnifique.
C'est parfait.
Une formule magnifique. Alors, l'accent circonflexe aussi intervient, et notamment lorsque, pour quelques mots où c'était un S uniquement dévolu à la prononciation, honnête, E-S-T, se transforme en N-E, accent circonflexe, T-E, bête, accent circonflexe. Alors, même si étymologiquement, le S avait un sens, mais en même temps, il était là pour bien montrer
la longueur
de la voyelle. Et de temps en temps, pour les distinctions entre homonymes, comme entre le jeune homme et le jeune.
Encore que la prononciation
Il y a une prononciation différente, mais en tout cas, elle est avancée comme telle par les académiciens. Ou
Les deux ou.
Voilà. Alors, voilà pour les modifications essentielles. De temps en temps aussi, on a supprimé les consonnes qui étaient étymologiques et qui vraiment ne se prononçaient plus.
Qui étaient devenues muettes.
Voilà, obmettre, adjouter,
c'est ça.
Qui s'écrivait bien OBM dans la première édition, et la deuxième vont disparaître en 1740 pour omettre, OME de TR.
Dommage qu'on n'ayons pas d'enregistrement, on aurait aimé savoir quand ces lettres avaient disparu.
Je vais vous faire une confidence, quand on lit un texte du XVIIe siècle, je suis bien persuadé qu'en tant qu'ex-professeur de lettres en lycée, je devais faire bien des erreurs, et beaucoup de nos collègues doivent faire aussi des erreurs. C'est pas facile, il faudrait presque prendre des cours de prononciation pour ne pas dire Claude, mais Glaude. Mais bon, ça ferait sourire.
Oui. Alors, il faut peut-être aussi dire qu'il y a quand même un ajout de nombreux termes scientifiques.
Oui, alors la préface évoque cela, des mots...
Ou l'influence des philosophes.
Voilà ce qu'ils disent. D'ailleurs, depuis environ 60 ans qu'il est ordinaire d'écrire en français sur les arts, il faut comprendre les artisans, les arts et métiers, sur les arts et sur les sciences, plusieurs termes qui leur sont propres et qui n'étaient connus autrefois que d'un petit nombre de personnes ont passé dans la langue commune. Aurait-il été raisonnable de refuser place dans notre dictionnaire à des mots qui sont aujourd'hui dans la bouche de tout le monde.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Dans cette première moitié du XVIIIe siècle, nous voyons la famille lexicographique s'épanouir et se renouveler, et nous allons assister à l'essor parallèle de deux dimensions. Tout d'abord, une dimension traditionnelle, avec la réédition du dictionnaire de Furtières par Henri Basnage de Beauval. 1701 ?
Oui, c'est ça.
Réédition reprise ensuite par les pères jésuites de Trévoux. Racontez-nous tout cela, Jean.
Alors, nous avions évoqué combien, à la fin du XVIIe siècle, on avait le dictionnaire de Richelet, dictionnaire de langue, ancêtre de Robert, Paul Robert ou Littré, le dictionnaire de Furtières, ancêtre des dictionnaires encyclopédiques, tels que celui de Larousse ou de Quillet plus tard. Alors, il se trouve que Furetière, avec 40 000 mots, avait évidemment un grand succès et que cet ouvrage a tout de suite bénéficié de rééditions, et notamment par Henri Banage de Beauval, dès 1701, qui avait des opinions, ils étaient deux frères, qui avaient des opinions protestantes, oui, fortes. On se souvient aussi que ça avait été préfacé par Pierre Bel, puisque Furetière était mort avant l'édition de son dictionnaire en 1690. Et du même coup, eh bien, Henri Banage de Beauval n'hésite pas à ajouter des éléments. Alors, on ne change pas grand-chose au texte de Furetière, oui, mais on le rend beaucoup plus... Lui, Furetière était plutôt janséniste,
oui,
eux, ils sont protestants, et donc ajoute, pour tout ce qui est religieux, des éléments de ce type. Alors, quand on dit que les jésuites de Trévoux, sur lesquels nous avons beaucoup à dire, quand on dit que les jésuites de Trévoux ont repris le Furetière, c'est pas tout à fait vrai, ils ont pris le Furetière de Banage de Beauval.
Bon.
Alors, évidemment, les jésuites, par essence, ne vont pas reprendre les points de vue religieux des protestants, donc de Henri Banage de Beauval, vont les modifier, mais... Quand on compare la première édition du dictionnaire qu'on va appeler de Trévoux, et je vais vous dire pourquoi, on l'appelle de Trévoux, dès 1704, avec trois tomes, mais seulement deux volumes. Parce que, évidemment, les tomes, c'est les coupures, mais les volumes, c'est les coupures de l'imprimeur. Mais il y a trois tomes, et bien, c'est pour ça que parfois on voit marquer trois volumes, mais c'est deux volumes et trois tomes. Et ce dictionnaire qui s'appelle « Dictionnaire universel français et latin, contenant la signification et la définition des mots de l'une et l'autre langue », en réalité, c'est le dictionnaire de Furetière, plus précisément revu par Henri Banage de Beauval, et retransformé par les jésuites sur le mode catholique. Et il reprend presque à l'identique le dictionnaire de Furetière. Et on y ajoute simplement les mots latins, ce qui fait que c'est une sorte de dictionnaire faussement bilingue. Il y a juste le mot latin qui est ajouté.
Oui, oui, oui.
Alors, Trévoux. Les pères jésuites s'étaient installés à Trévoux. J'ai eu l'occasion d'y aller.
Oui.
C'est d'ailleurs une très belle petite ville. À une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon, sur la Saône.
Dans la Dombe.
Dans la Dombe. D'ailleurs, qui prend un S. C'est un des rares mots au singulier qui prend un S. Et dans cette Dombe, il se trouve que c'était la capitale d'une principauté et que cette petite ville bénéficiait donc d'une imprimerie moderne parce qu'une principauté a ses lois, ses règles, il faut donc une imprimerie. Et cela en faisait un lieu privilégié de diffusion. Et dès 1701, on y avait publié, ce que connaissent bien nos auditeurs très littéraires et passionnés par le XVIIIe siècle, on y avait publié le journal de Trévoux, qui était des tout petits livres, mais qui était publié régulièrement et qui, évidemment, nous permettait de comprendre la vie littéraire de l'époque. Et alors, ce journal de Trévoux a été publié un demi-siècle durant, mais en même temps, eh bien, le dictionnaire de Trévoux va être là pour faire contre-pied, pas tout de suite, mais à un moment donné, dans les dernières éditions, il fera contre-pied à l'encyclopédie qu'il faut combattre et qui, évidemment, n'est pas du côté des jésuites de Trévoux, puisqu'on pourrait presque dire qu'ils sont opposés. Ce qu'il y a d'intéressant, dans le dictionnaire de Trévoux, il y a une deuxième édition dès 1721, une troisième en 1732, en cinq volumes, une quatrième en 1743, en six volumes, et en 1752, une cinquième édition avec sept volumes.
Et un supplément.
Voilà. Alors, on arrive à 8 tomes. Donc, on comprend qu'on est parti de Furetière et on a cessé de l'enrichir, de l'augmenter. Ce qui fait que pour ceux qui s'intéressent au XVIIIe siècle, il est clair que le dictionnaire qu'on a appelé de Trévoux, hein, très rapidement, le dictionnaire de Trévoux, bon, c'est une mine d'informations qui est très encyclopédique, hein, beaucoup plus encyclopédique, mais en même temps, qui offre des citations. Et c'était même l'avantage qu'ils essayaient de mettre en avant.
Oui, dans la tradition de Furetière.
Voilà, dans la tradition de Furetière. Et qu'il est distingué de l'Académie. Et peut-être même que l'Académie, en ne donnant pas de citations, se distinguait du coup encore mieux hein, de ce dictionnaire encyclopédique.
Oui. Alors, et Richelet, a-t-il toujours autant de succès?
Oui, ça va aller décrescendo quand même. Mais le dictionnaire François de Richelet, donc fondé sur les citations, va faire l'objet dès 1685, on est au 17e, donc d'une réédition, 1688, 1689, 1690, 1695, et puis il fera même l'objet d'un abrégé en
Monsieur 17... de Vailly.
Voilà, en 1756, et en 1802, il devient
un dictionnaire portatif.
Voilà, extrait du grand dictionnaire de Pierre
Richelet.
Et même
Richelet. Avec un vocabulaire géographique.
Oui, alors là c'est extraordinaire parce que c'est Larousse avant l'heure.
Oui, oui.
Et on sent le dictionnaire d'apprentissage. Alors on sent aussi quelque chose. L'Académie, c'est un nom. Le dictionnaire de l'Académie, on finit par ne plus poser la question « quelle édition ?» D'ailleurs, si aujourd'hui on demandait dans la rue « quelle est l'édition actuelle du dictionnaire de l'Académie ?», beaucoup de gens, c'est normal, ne sauraient pas répondre. Il y a le dictionnaire de l'Académie avec des éditions successives. C'est pareil pour le Richelet. De même que quand on dit « j'ai le Larousse » ou « j'ai le Robert », si on demandait « mais quel millésime ?», je crois que personne ne serait capable de le dire.
Bien
Donc
sûr.
Richelet est dans cette veine des dictionnaires universels. Je parlais des citations, voilà ce que disent les jésuites,
oui.
Parce qu'on en trouve dans Richelet. Dans la préface de 1732, le public penche un peu plus du côté de ceux qui citent que de ceux qui ne citent pas. Oui, mais c'est pas si manifeste que ça, quand même.
Oui. Alors, parallèlement à ces dimensions traditionnelles dont nous venons de parler, une seconde dimension voit le jour. À la grande armada de gros dictionnaires au long cours, qui se déploient tout au long du siècle des Lumières, tels que le Trévoux ou l'Encyclopédie, s'associent tantôt en amont, tantôt en aval de leur trajet, une première flottille de petits dictionnaires.
J'aime bien le mot flottille.
Vous reconnaissez ces lignes, Jean Pruvot, c'est votre dernier livre que je cite ici. Quels sont ces ouvrages? Quelle est leur mission?
Alors, on bénéficie de grands dictionnaires en deux volumes. On vient d'évoquer les 8 volumes du Trévoux là, au milieu du siècle. L'Académie, c'est 2 volumes ou 3. Tout dépend parfois de l'éditeur. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a eu très vite des plagiats. Et l'Académie n'a jamais attaqué vraiment.
Mais non, puisque vous nous avez dit que la règle était de ne pas répondre.
Oui, c'est ça. Voilà, une grande noblesse, en fait, cette affaire. Et alors, il y a des dictionnaires qui, effectivement, sont là en parallèle au gros paquebot, si on me permet la métaphore filet, pour le nourrir de remarques fines. Et nous avions vu d'ailleurs combien, pour la première édition, sans doute les dictionnaires d'épithètes avaient permis aux académiciens d'être plus fins dans les exemples forgés, justement. Alors, pour la synonymie, là, on a la chance d'avoir une œuvre, je n'aime pas ce mot, mais c'est quand même vraiment le mot qui correspond le mieux,
oui.
Pionnière de l'abbé Girard, qui était secrétaire.
1718.
Voilà, secrétaire interprète du roi pour les langues slaves et russes.
Oui.
Et qui avait...
Esclavonne.
Esclavonne, voilà, je n'ai pas osé dire, mais c'est esclavonne. Et qui connut un immense succès à travers un petit ouvrage, un in douze, qui s'appelait « Justesse de la langue française » ou bien différentes significations des mots qui passent pour être synonymes. C'est le premier ouvrage de ce type publié en France, avec donc une préface très fine. Voilà ce qu'il dit, par exemple, de ses observations. « Elles n'ont pour objet ni les règles de grammaire, ni la pureté de l'usage, mais uniquement la différence délicate des synonymes, c'est-à-dire le caractère singulier de ces mots, se ressemblant comme frères par une idée commune, sont néanmoins distingués l'un de l'autre par quelque idée accessoire et particulière à chacun d'eux. D'où naît, dans beaucoup d'occasions, une nécessité de choix pour les placer à propos et parler avec justesse, qualité aussi rare qu'aimable, dont le goût est capable de faire briller le vrai et de donner de la solidité au brillant.
Bon, mon Dieu, que ces gens
voilà,
savaient écrire.
Je n'ai pas résisté au plaisir de lire ça, parce que c'est non seulement merveilleusement écrit, mais qui plus est, je crois que c'est très juste. Il se trouve qu'à midi, j'étais en compagnie du champion du monde d'orthographe, vous savez, Bruno Dewell, qui fait des chroniques à la Voix du Nord, et on discutait sur les chroniques de langue, et il m'évoquait combien les questions d'orthographe avaient été toujours très sensibles pour les Français, et que les étrangers ont du mal à comprendre cette passion que nous avons pour l'orthographe. Je crois que c'est la même chose pour les synonymes, avec le peuple anglais sans doute. Mais nous avons une passion
un goût pour la langue.
Voilà, un goût prononcé pour le juste mot, le bon mot. Alors, il se trouve que là, j'ai apporté, je vous le présente, ce fameux dictionnaire de synonymes, avec donc ces extraits. Et pour qu'on comprenne bien ce qu'on va trouver dans ce dictionnaire, je prends par exemple Anne ignorant. Alors, il faut vous dire, si je prends au hasard, j'ai amoureux, amant. Anne, ignorant. Appui, soutien, support. J'aurais attrait, appât, attache, avare, intéressé. J'aurais toute une série comme ça, satisfait, content. Et ce sont les titres des articles, en quelque sorte. Et à partir de là, eh bien, Girard, l'abbé Girard, avec un talent extraordinaire, comme on vient de le voir dans la préface, montre les subtiles nuances. Alors attention, c'est là qu'il faut comprendre que même aujourd'hui, il y a deux types de dictionnaires de synonymes. Les dictionnaires de synonymie distinctive, c'est ce que je vais vous lire ici. On distingue subtilement les différences entre deux supposés synonymes. Il vient de dire, dans le fond, qu'il n'y en a pas. Mm-hmm. Dans le fond, un dictionnaire de synonymie distinctive, c'est un dictionnaire qui explique qu'il n'y a pas de synonyme. Mm-hmm. Et puis, il y a les dictionnaires de synonymie cumulative. Bon, j'en fais un chez Bordas avec toute une série de mots qu'on met. On suppose là que le lecteur connaît les distinctions et c'est cumulatif, on ajoute les mots les uns derrière les autres.
Ce qui est oui, aussi et riche. Au lecteur à faire les différences.
Voilà. Alors là, synonymie distinctive. On est âne par disposition d'esprit et ignorant par défaut d'instruction. Le premier ne sait pas parce qu'il ne peut apprendre et le second parce qu'il n'a point appris. L'âne a pu s'appliquer à l'étude, mais son travail a été inutile. L'ignorant ne s'est pas donné cette peine. À quoi bon parler science devant les ânes ? Leurs oreilles ne sont pas faites pour ce langage. Ce n'est pas toujours inutilement qu'on en parle devant des ignorants. Ils peuvent profiter de ce qu'on dit. L'ânerie est un défaut qui vient de la nature du sujet. Et l'ignorance est un défaut que la paresse entretient. Celle-ci est moins pardonnable, mais celle-là rend plus méprisable. Les ânes, pour l'ordinaire, ne connaissent ni ne sentent pas même le mérite de la science. Les ignorants se le figurent quelquefois tout autre qu'il n'est.
Ouais,
c'est quand même merveilleux. Hein. J'ai presque envie de vous en lire encore une ou deux pour qu'on comprenne bien. Il y en a des très courtes, hein, j'en ai choisi. Satisfait et content, par exemple. On est satisfait quand on a obtenu ce qu'on souhaitait.
Oui.
On est content lorsqu'on ne souhaite plus. Il arrive souvent qu'après s'être satisfait, on n'en est pas plus content.
Oui.
La possession doit toujours nous rendre satisfaits. Mais il n'y a que le goût de ce que nous possédons qui puisse nous rendre contents. D'ailleurs, c'est tout à l'avenant, robuste et vigoureux. Je vous promets, j'arrête après parce que j'ai envie de le lire en entier. Bon. Le vigoureux semble plus agile. Là, il y en a trois, là. Mm-hmm. Je vais terminer sur ce trio. Vigoureux, fort, robuste. Le vigoureux semble plus agile et doit beaucoup au courage. Le fort paraît être plus ferme et doit beaucoup à la construction des muscles. Oui. Le robuste est moins sujet aux infirmités et doit beaucoup à la nature du tempérament.
Bon.
On est vigoureux par le mouvement et par les efforts qu'on fait. On est fort par la solidité et par la résistance de ses membres. On est robuste par la bonne conformation des parties qui servent aux fonctions naturelles. Et ça se suit. Vous voyez, c'est un véritable délice. Oui. Et on comprend que pour définir après les mots dans un grand dictionnaire, même si le dictionnaire de l'Académie avait une grande avance, ces petits dictionnaires-là sont comme des avant-gardes.
Bien sûr.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Alors, la synonymie, nous venons de voir que c'était la naissance d'un genre très nourricier, comme vous venez de l'illustrer, et les néologismes.
Alors,
les mots difficiles, l'argot.
L'argot, alors on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai qu'il y a eu des dictionnaires délicieux, notamment de Leroux, hein, qui mettait en avant toutes sortes
1718.
De mots. Voilà,
alors là, je ne peux pas résister. Voilà. Dictionnaire comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial.
Voilà, alors.
Ça, c'est Leroux.
C'est Leroux.
Philibert Joseph Leroux, 1718.
Voilà, qui a d'ailleurs été... il est très difficile de se le procurer d'époque, mais il a été réédité chez Champion.
Je suis sûr que vous l'avez.
Oui, bien sûr. Bien sûr, dans la folie qui est la mienne, oui. Et il a été préfacé par Monica Barsi. Nos amis italiens font un travail considérable sur la langue. C'est comme les Allemands, la langue française n'intéresse pas d'ailleurs que les Français, heureusement. Hein.
Sur la nôtre, vous voulez dire.
Voilà, l'Allemagne, en Allemagne et en Italie, en Allemagne pour l'étymologie surtout. Et en Italie, bon, il y a vraiment des travaux très forts qu'ils ont fait. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin. Ce matin, nous parlions d'abricot, puisque c'est un mot, un des 10 mots. Bon, abricot fendu va être développé à n'en plus finir, bien entendu, en tant que sexe de la femme, par Leroux. Tout est coquin dans ce dictionnaire-là. On y parle, par exemple, de l'hôtel de Vénus. On y parle des académies d'amour, qui sont, bon, des maisons un peu spécifiques. Donc, vous voyez, tout cela, c'est le propos de Philibert Leroux, d'un bout à l'autre de son dictionnaire. Et alors, c'est intéressant parce que on y voit combien les rapports avec l'Italie sont forts. C'est pas un hasard, d'ailleurs, j'y pense à l'instant, si c'est Monica Barsi, italienne, professeure d'université en Italie, à Milan, qui a travaillé sur le sujet, parce que c'est le début, vous savez, du mal napolitain, qui la syphilis, mais qui est évoqué comme le mal français. Et il y a un aller-retour entre l'Italie et la France coquine, si je puis dire, qu'on retrouve tout entier dans Philibert Leroux. Alors, c'est un régal, évidemment, un petit peu avec des clins d'œil, ça et là.
Alors, Desfontaines.
Desfontaines, c'est là quelque chose alors d'ambigu. Comme l'a toujours été toute œuvre portant sur les néologismes, sauf depuis, disons, un demi-siècle.
Abbé Desfontaines.
Voilà, c'est-à-dire que, d'un côté, on a toujours admis qu'une langue, pour exister, devait inventer des mots. Bon, on ne peut pas inventer un objet et reprendre indéfiniment des mots existants, sinon la langue en serait encombrée. Donc, on a Internet, on a des mots pour l'informatique, et bien entendu, il faut trouver des mots correspondant aux nouvelles réalités. L'automobile, etc. Et donc, là, il faudrait rappeler qu'il y avait eu auparavant le mouvement des précieux, mais je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
L'abbé Desfontaines...
Oui, mais enfin, c'est dans la même mouvance, néologisme
voilà,
aussi.
Voilà,
oui.
Tout à fait. Mmh. Alors, l'abbé Desfontaines va publier en 1726 le dictionnaire néologique à l'usage des beaux esprits du siècle, suivi de l'éloge historique de Pantalon Phébus. Et c'est pour ça qu'on a souvent dit le dictionnaire de Pantalon Phébus. Mais en fait, cet éloge historique de Pantalon Phébus, c'est un personnage imaginaire et c'est
comme
un texte qui reprend toute une série de néologismes et qui est une sorte de travail d'écolier et qui est très plaisant, bien entendu.
Que l'on attribue.
Que l'on attribue alors à l'abbé
Desfontaines,
très probablement. Alors, il se trouve que là, il s'appuie sur des auteurs contemporains, Marivaux, Fontenelle, Lamotte, et il y tourne en ridicule les nouveaux sens ou nouveaux mots, comme le laisse entendre l'une des épigraphes qui est tirée de La Bruyère, le ridicule qui est quelque part, il faut l'y voir et l'en tirer d'une manière qui plaise et qui instruise. Alors, je l'ai aussi apporté, bien sûr. Là, il y a beaucoup de précautions, parce que, en définitive, quand on évoque les néologismes, on peut toujours avoir les auteurs qui sont cités, qui ne sont pas contents. Donc, on est un peu entre deux genres. On ne sait pas si c'est des conseils, si c'est de l'ironie. C'est très difficile. Voilà ce que dit d'ailleurs l'extrait d'une lettre de Monsieur Rousseau à Monsieur. Alors, Monsieur Rousseau, c'est sans doute pas Jean-Jacques Rousseau. Il règne aujourd'hui dans le langage une affectation si puérile que le jargon des précieuses de Molière n'en a jamais approché. Le style frivole et recherché, passe des palais jusqu'aux tribunaux les plus graves, et Dieu n'y met la main, la chair des prédicateurs sera bientôt infectée de la même contagion. Rien ne peut mieux réussir à en préserver le public que quel ouvrage qui en fasse sentir le ridicule. Donc vous voyez, c'est bien l'idée de l'ouvrage. L'éditeur aussi prévient que j'avertis le public que mon dessein n'a été que d'être un peu utile à la République des lettres. Et l'auteur, lui, dans sa préface, fait semblant de valoriser. Mais en fait, c'est une préface assez ironique. Voilà un recueil des plus belles expressions que j'ai lues depuis quelques années dans les livres nouveaux. Je sais que le plus grand nombre des termes et des tours ingénieux dont j'ai composé ce dictionnaire est aujourd'hui à la mode à Paris. Du moins, je me l'imagine, puisque les auteurs qui les ont employés ont tant de célébrités. Et je sais que ce n'était presque pas la peine de les remarquer. Et alors, le dictionnaire commence avec toutes sortes de remarques. Alors, elles sont mi-figue, mi-raisin, hein, on a du mal parfois. Par exemple, je tombe ici sur avantageux. Et tout à l'heure, quand j'évoquais la flottille de petits dictionnaires qui aident les grands dictionnaires à s'améliorer, avantageux, ce mot se trouve dans le dictionnaire de Trévoux, pour exprimer un homme qui parle insolemment, qui est haut et présomptueux et qui dit des choses fâcheuses à celui qui le contredit. C'est ainsi que ce dictionnaire définit l'homme avantageux. Comme il ne cite ni autorité ni exemple, il est à croire que ce mot, pris en ce sens, ne s'était pas encore écrit. Il l'a été en 1723, donc de peur qu'on ne me traite d'homme avantageux, qui prend ici le ton décisif, préface de l'homme universel. Vous voyez, on ne sait pas, mi-figue, mi-raisin, avare, l'auteur des fables nouvelles l'appelle un infâme anachorète de Belzébuth. Bon, faut-il penser que c'est ridicule? C'est une information? On est vraiment entre plusieurs manières de sentir les choses. Alors, phénomène potager, j'adore celle-ci. C'est une grosse rave, le phénomène potager, selon l'auteur des fables nouvelles. Le journal de Trévoux dit, à l'occasion de l'auteur du poème de la Grâce, à peu près ces mots: « Il a paru et disparu à Paris un phénomène littéraire qui depuis a paru à Marseille pour reparaître à Salins. Alors, phénomène potager, vous voyez, les énormes courges, les énormes potirons, bon, avec quelques sens amusants. Voilà pour cet abbé des Fontaines. Rabais, mettre quelqu'un au rabais pour dire le rabaisser.
Ouais.
Et préface de l'histoire romaine. Vous voyez, on met en avant une formule, un mot, on le décrit et on l'entoure d'un peu d'ironie.
Oui. Enfin, le néologisme est d'abord objet de raillerie, c'est certain, mais le ton changera à la fin du siècle.
Oui, c'est ça. Ça, nous allons vraiment l'analyser effectivement au moment où on abordera la quatrième et la cinquième édition. Mais à la fin du siècle, effectivement, le néologisme commence à être pris au sérieux. On verra même que l'Académie, là aussi, s'est illustrée.
Oui, bien sûr que tout va changer à la faveur de l'inspiration, le souffle nouveau. Et de la Révolution, bien sûr. Alors, dictionnaire consacré à la synonymie et à la néologie. Il faudrait aussi évoquer le grand dictionnaire des précieuses, dont nous parlions tout à l'heure, de Sommès, paru en 1631. Car enfin, les précieuses, en dépit de leurs excès, avaient grandement favorisé la recherche de précisions sémantiques qui se révéleraient, je vous cite encore, cher Jean Pruvot, indispensables à l'élaboration des premiers dictionnaires français-français.
Oui, il faut bien souligner que quand on utilisait le mot précieux au début du
avec
XVIIe,
un T d'ailleurs.
Voilà. Eh bien, au début du XVIIe siècle, c'est valorisant, c'est précieux au sens important. Et on se souvient aussi que ce sont les gens de cour qui écrivent bien, et les hommes et les femmes de lettres. Les femmes de lettres vont jouer un rôle évidemment essentiel, qui fuient en partie la cour d'Henri IV. On est revenu un siècle en arrière, hein, mais c'est très important aussi pour comprendre le dictionnaire des néologismes, qui fuient la cour d'Henri IV pour aller, dans le fond, dans des endroits modernes, ces fameux hôtels, le marquise de Rambouillet et d'autres.
Où, plus confortable.
Plus confortable, où on est au chaud aussi. Et ça, le confort est quand même précieux, sans jeu de mots, pour développer la langue française. Alors, ils avaient travaillé... Alors,
l'hôtel de Rambouillet, dont nous parlions l'autre jour.
Voilà.
Valentin Conrart.
Oui, tout à fait, qui en faisait partie. Et alors, on s'y exerçait, vous savez, à des jeux littéraires, le portrait, les maximes, La Rochefoucauld, à vaincre sans péril.
Auquel je jouais dans mon enfance.
Ah bon,
les portraits,
voilà.
Bien sûr, donc, et les maximes et les proverbes.
Voilà, donc on y jouait en permanence. Et alors, derrière Malherbe, qui faisait partie d'ailleurs des précieux, et qui était le poète officiel de la cour d'Henri IV, puis de Louis XIII, derrière Malherbe, on chassait les mots provinciaux et les mots considérés comme bas. Donc, c'est là que, parfois, on est allé un peu loin.
Oui.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, Molière s'en est moqué. On se souvient qu'en 1659, les précieuses ridicules, là, le mot ridicule est associé pour longtemps à précieux
et
va faire du tort.
59.
Voilà, en 1659. Alors, un peu avant, en 1631, avait été... tirait déjà un dictionnaire du vocabulaire des précieux, le grand dictionnaire des précieuses, avec un T, T-I-E-U-S-E-S, de Sommès, et qui, bon, reprenait l'ensemble des formules. Alors, si on devait rappeler les périphrases, puisqu'il s'agissait de ne pas utiliser les mots bas, donc il n'était pas question, bien entendu, de parler des yeux, c'était trop commun. Donc, c'était les miroirs de l'âme. Il n'était pas question d'évoquer les tempes grisonnantes, c'était les quittances d'amour. Il n'était pas question de parler d'un fauteuil.
Les commodités de la conversation.
Voilà. Alors, le nez, les narines, là, par contre, en revanche, plus exactement, je ne suis pas très sûr que ce soit plus esthétique et plus beau, mais on ne pouvait pas parler des narines, on disait les écluses du cerveau.
Oui,
bon, c'est pas très joli.
C'est très vilain.
Les joues, par contre, c'est très joli, surtout pour les femmes, les trônes de la pudeur.
Ouais.
La chandelle, c'était le supplément du soleil, le chapeau, l'affronteur du temps. Puis il y avait toutes sortes d'adverbes. Un chien... qu'aujourd'hui, on verrait s'épancher, là je suis dans le fond un peu dans le registre précieux sans le vouloir, sur un réverbère, on aurait dit au XVIIe siècle, avec les précieux, les précieuses ridicules, qu'ils s'ouvraient furieusement. Donc voilà le vocabulaire de l'époque, qui n'est pas de charme, mais il nous en est resté. C'est ça qui est intéressant. Quand on dit du dernier cri, ça date de cette époque, le dernier cri, et châtier le style.
Ah oui.
Quand on châtie le style, quand on y réfléchit bien, châtier le style, bah, c'est une formule qui pourrait être ridicule si vous voulez la sentir ridicule, mais dans le fond, elle est assez jolie.
Oui, oui, oui.
Hein, c'est punir le style, faire en sorte qu'il soit beau, etc. Alors aujourd'hui, on évoque le politiquement correct, le phénomène n'est pas nouveau. Hein.
Linguistiquement correct.
Voilà.
Eh bien, Un tour d'horizon tout à fait passionnant. La première moitié du XVIIIe siècle, nous venons de le voir, confirmait les modèles que le XVIIe avait institués et préparait la belle éclosion, le feu d'artifice de la seconde moitié du siècle, celle de l'encyclopédie, mais aussi de la Révolution. Nous consacrerons la troisième émission de notre série, le dictionnaire, hier et toujours, à la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie, l'édition des philosophes, celle de 1763, et à un monument, l'expérience unique, que fut l'encyclopédie. Avant de nous quitter, Jean Prouvot, peut-être faudrait-il dire un mot de la journée des dictionnaires que vous organisez à Cergy-Pontoise et qui aura lieu cette année, si je ne me trompe, le 14 mars.
Merci Anne-Françoise de me faire évoquer cette fête des dictionnaires qui m'est chère. Elle date de 1994. Chaque année, il y a cette journée des dictionnaires. Et la journée des dictionnaires rassemble tous ceux qui sont intéressés par la langue française et plus spécifiquement les dictionnaires, mais tous ceux que le sujet intéresse, peuvent venir, c'est gratuit. Ça se passe dans un amphithéâtre qui est gigantesque. Quand j'étais vice-président de l'université, je l'ai fait appeler l'amphithéâtre Pierre Larousse. Il m'en faudrait deux autres maintenant pour évoquer l'amphithéâtre de l'Académie française, l'amphithéâtre de Paul Robert, etc. Mais c'est un immense amphithéâtre. Et si j'évoque Pierre Larousse, c'est que cette année, ça sera un peu bizarre, parce que j'ai évoqué les 100 ans du petit Larousse il y a 2 ans ou 3 ans. Cette année, c'est les 40 ans du petit Robert. Donc, le thème sera la ronde des emprunts. Les mots qui donc sont empruntés aux autres langues, qui sont prêtés aux autres langues au sein des dictionnaires, français notamment, ou bilingue français et une autre langue. Et nous aurons une conférence d'Henriette Walter qui ouvrira la journée. Nous aurons bien sûr...
Tu connais bien cette maison.
Oui, et puis une amie, qui est quelqu'un de remarquable, qui fait un énorme bien à notre langue française.
Oui.
Nous aurons des conférences de spécialistes tels que John Humbley, qui est quelqu'un de charmant, travaillant sur les emprunts, sur les néologismes. Nous aurons aussi des jeunes doctorants d'un laboratoire en pointe, le lexique dictionnaire informatique, dont d'ailleurs mon laboratoire est fusionné avec ce laboratoire, qui travaillent sur les langues arabes. Nous aurons aussi, c'est ouvert par le délégué général à la langue française, Xavier Nort. Il y aura l'après-midi des représentants du Québec. Il y aura aussi l'ex-directeur de l'International Journal of Lexicography, qui est bilingue, français-anglais. Nous aurons un spécialiste des langues africaines et d'autres interventions sur le petit Robert, 40 ans de jeu avec la langue. Donc, en même temps qu'il y a une dizaine de conférences toute la journée, il y a une exposition. Donc là, ce sera une exposition sur les emprunts et sur le dictionnaire Le Robert pour fêter ses 40 ans. C'est sur la ligne A du RER, c'est tout près de Paris en définitive quand on prend le RER Châtelet ou je ne sais pas, aux Champs-Élysées. On descend à Cergy-Préfecture, la faculté, l'université est tout à côté, ça sera balisé, et il y a un immense amphithéâtre avec 700 places. Donc tous les ans, il y a quand même 200 ou 300 personnes qui sont là. Il y a des jeunes aussi. C'est une véritable fête des dictionnaires. C'est un rassemblement. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent des éditeurs, ils viennent des passionnés. Alors, du Québec, d'Italie, de France, c'est une forme de grande fête et un lieu d'échange entre les passionnés qui peuvent très bien ne pas du tout être linguistes, ça n'a aucune importance. Simplement aimer la langue, aimer les dictionnaires, être collectionneur de dictionnaires parfois. On y fait des rencontres vraiment très plaisantes.
Eh bien, c'est épatant. Nous y serons sûrement.
Merci.
À très bientôt, Jean Prouvot. Et encore une fois, grand merci.